Europe Matin Weekend, Pierre de Villeneau.
8h15, c'est l'interview politique et je reçois la ministre à l'égalité femmes-hommes, diversité et égalité des chances. Bonjour Elisabeth Moreno.
Bonjour Pierre de Villeneuve.
Merci d'avoir choisi Europe 1 ce matin. Une femme défenestrée par son ex-conjoint à Colmar jeudi. Le même jour, une autre femme se fait tirer dessus à Metz par son conjoint en instance de divorce. Une autre femme encore à Douai, retrouvée dénudée, recouverte d'ecchymose lundi. Une autre encore avant à Hayange. On approche les 50 féminicides depuis le début de l'année, Elisabeth Moreno. Vous qui défendez la parole des femmes, leur place dans la société, que faites-vous pour les empêcher de mourir sous les coups de leur conjoint ?
Monsieur de Villeneau, les féminicides récents de Chaynaise, de Stéphanie, d'Aurélie, enfin tous ceux que vous avez cités sont absolument monstrueux. Ils sont tellement inhumains qu'on a du mal à imaginer comment il est possible d'en arriver là. Et ils démontrent, je crois, toute la brutalité et la dangerosité des auteurs de violences intrafamiliales. Et je pense évidemment avec tristesse aux familles de ces femmes assassinées et en particulier à leurs enfants, parce qu'on n'en parle jamais assez. Mais dans les derniers cas, celui d'hier, par exemple, à Metz, cette tentative d'assassinat a eu lieu sous les yeux de leur enfant. Et je pense évidemment à ces enfants dont la vie est tout à fait ravagée et que nous devons absolument aider à surmonter cette période dramatique de leur vie avec beaucoup, beaucoup d'attention et de compassion. Et je veux aussi, si vous le permettez, saluer l'attention que les médias portent de plus en plus sur ces sujets qui ont été pendant très longtemps invisibilisés, je dirais même pendant des décennies, et qui ne sont plus aujourd'hui considérés comme de simples faits divers, qui sont parfois banalisés à outrance. Et je crois que cette médiatisation permet un changement de regard sur ces meurtres qui sont véritablement atroces. Mais je veux aussi dire aux femmes qui subissent ces violences qu'il n'y a pas de fatalité. Les féminicides récents peuvent faire peur et ils peuvent faire penser qu'il y en a plus, mais ça n'est pas le cas, puisqu'en 2020, c'est même si un féminicide est un féminicide de trop, mais en 2020, c'est la première fois que nous sommes arrivés à peu près une centaine de 102 femmes, si je ne m'abuse, qui ont été victimes de féminicides. Et malgré l'horreur que vous avez rappelée de ces derniers féminicides, eh bien, je pense que les choses progressent. On parle de ces femmes qui sont assassinées parce que c'est totalement abject, mais il faut aussi parler de toutes celles qui sont sauvées et qui se reconstruisent et qui reprennent une vie normale. Et je veux les encourager à continuer de se confier, à continuer de parler toujours plus.
Je confirme, effectivement, c'est très difficile de donner des statistiques, c'est totalement morbide. Vous avez parlé des enfants, on va y revenir dans un instant parce que c'est très important, mais vous remarquerez qu'à chaque fois, ces femmes ont alerté. Et quand on parle de cette autre jeune femme immolée par le feu en pleine rue le 4 mai à Mérignac, quand Marlène Schiappa, ministre de la Citoyenneté, parle d'échec collectif avec à la clé des défaillances et des dysfonctionnements dans les plaintes qui ne sont pas suivies de faits, qu'est-ce que vous répondez ?
Moi, ce que je pense, c'est que, d'abord, il aura fallu attendre 2017 pour que, enfin, un président de la République décide que l'égalité femmes-hommes est une grande cause du quinquennat et pour qu'on ait le premier Grenelle des violences conjugales dans notre pays. Un Grenelle qui a réuni plus de 4500 personnes et 15 ministères, dont, évidemment, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, parce que le travail des policiers et des gendarmes et des magistrats est absolument essentiel pour protéger et sauver ces femmes. Je pense que quand Madame Schiappa parle d'échec collectif, c'est parce que il faut évidemment que l'État se saisisse de ces questions, et c'est ce que nous avons fait ces dernières années quand on met en place le bracelet anti-rapprochement, quand on démultiplie le nombre d'ordonnances de protection, quand on met en place le 39-19 qui va bientôt être accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur tout le territoire français, quand on met en place des centres de prise en charge des auteurs. C'est la première fois. Avant, on s'occupait des victimes. Aujourd'hui, on s'occupe des victimes, mais aussi des agresseurs pour éviter la récidive. Quand on augmente de 60% le nombre de places d'hébergement par rapport à 2017, c'est tout l'engouement dont l'État fait preuve
donc
sur cette question aujourd'hui.
Donc vous n'êtes pas d'accord avec les avocats de ces victimes qui disent qu'on fait dans la répression des conjoints, mais pas dans la protection des femmes. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Ah mais je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que d'abord, il y a un travail phénoménal qui est fait par les associations, je pense à la Fédération nationale Solidarité Femmes, je pense à Women Safe, je pense à des associations comme En Avant Toutes, je pense à... Il y a énormément de travail qui est fait sur le terrain pour faire de la prévention, pour écouter, pour croire, parce qu'on a mis du temps avant de croire la parole des femmes, sans les mettre en question, sans les mettre en doute, et sans même parfois les faire culpabiliser.
Comment vous l'expliquez?
Parce que nous sommes dans une société très patriarcale où moi, à titre personnel, en tant que femme en charge des violences faites aux femmes, j'ai entendu des témoignages de femmes qui me disaient, on me demandait si vraiment je voulais porter plainte parce que ça allait déstabiliser ma famille. Je pense au poids des familles. Certaines familles préfèrent se taire parce qu'elles ont peur de déstabiliser un cocon familial. Mais elles ne se rendent pas compte que en faisant cela, parfois, ces femmes sont en danger. Donc je pense qu'il y a un changement de mentalité qui est en marche, que c'est heureux, mais que c'est toute la société qui doit continuer de se saisir de ces questions, que lorsqu'un voisin entend une femme qui est tabassée par son conjoint, qu'il ne se dise pas que c'est qu'une affaire privée, qu'il ose appeler la police. Et puis, je veux quand même vous dire que évidemment que les derniers cas nous font questionner les dispositifs que nous avons mis en place. Moi, j'ai personnellement lancé un appel au juge. Éric Dupond-Moretti a demandé une mission d'inspection sur les cas que vous avez mentionnés tout à l'heure, dont on obtiendra les conclusions et les décisions entre le 10 et le 15 juin prochain. Il faut continuer d'apprendre, il faut continuer d'améliorer les processus, et il faut que toute la société continue de se saisir de ces questions et que l'on se sente tous concernés.
Vous avez parlé tout à l'heure, je le disais, des enfants. Qu'est-ce qu'on fait des enfants dans ces cas-là?
Eh bien, aujourd'hui, il y a des associations comme Women Safe et la Maison des Femmes, par exemple, qui prennent en charge à la fois psychologiquement, mais aussi dans le suivi et la continuité des enfants, parce que jusqu'aujourd'hui, les femmes étaient particulièrement aidées et accompagnées. Mais on se rend bien compte qu'un enfant qui vit dans un foyer de violence peut aussi devenir violent, que ce soit à l'école, que ce soit dans l'espace... Comment ça, il n'y a pas de solution?
Vous parlez de foyer, vous parlez des foyers, de la violence dans les foyers. Donc ça veut dire si les enfants sont placés dans les foyers, c'est pas une solution non plus. C'est ce que vous essayez de nous dire.
Ah non, je parle. Non. Quand je vous parle des foyers, je parle des foyers dans lesquels ils subissent les violences intrafamiliales. Après, et quand bien sûr qu'il y a des solutions, heureusement qu'il y a des solutions. Il y a beaucoup de solutions médicales d'accompagnement de ces enfants qui jusqu'ici n'étaient pas entrés dans le processus, mais je vous donne un exemple, il y a 4 lois qui ont été votées depuis ce gouvernement est en place. 4 lois qui accompagnent à la fois les adultes, mais aussi les enfants pour les protéger de toutes ces violences intrafamiliales. Parce qu'il faut savoir que les enfants subissent une majorité de ces violences quand ils sont dans leur maison avec des personnes qu'ils connaissent parfaitement bien. Donc c'est quelque chose qui est maintenant intégré et sur lequel nous travaillons, nous, État, mais également des associations sur le terrain.
Une dernière question, vous parlez du 3919, ce numéro effectivement qui va être maintenant joignable à tout moment. Concrètement, ce 3919, ça a l'air simple d'appeler, mais toutes ces femmes, elles ont peur d'appeler, elles ont la peur au ventre.
Alors, d'abord, permettez-moi de rappeler tous les dispositifs, parce qu'il y a le 3919, mais il y a aussi le 17, il y a le 114, il y a arrêtonslesviolences.gouv.fr où des policiers et des gendarmes sont formés sur les violences intrafamiliales. C'est la même. Alors, elles ont peur. Elles sont sous emprise, parfois elles ont honte, et c'est pour ça que j'en appelle à leur famille, que j'en appelle à leurs amis, que j'en appelle à leur voisinage. Il ne faut pas laisser une femme qui subit des violences seule, parce que souvent elles sont sous emprise, et souvent lorsque l'on réagit, eh bien cela peut tout changer, et on peut sauver des vies. Et c'est ensemble et collectivement. Quitte à appeler à sa place, bien sûr, quitte à dénoncer les violences dont elles sont victimes. Parce qu'encore une fois, parfois elles sont sous une telle emprise qu'elles n'osent pas le faire, qu'elles ont peur de le faire. Et c'est pour ça que je parle de responsabilité collective.
Merci beaucoup Madame la Ministre, merci Elisabeth Moreno d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1.
Et je vous remercie pour votre invitation.
À suivre.